On va parler dans cet épisode preview de temps additionnel d'un match de Liga. Bien évidemment, nous parlerons de cette 31e journée, plus précisément du match entre l'Atlético et Girona, cette équipe qui fait partie des surprises de cette saison. On va plonger dans un match qui va être très excitant dans ce podcast. Et puis bah, pour m'accompagner dans ce match très excitant, bien sûr, j'ai en ma compagnie Victor pour parler de cette rencontre entre les Colchoneros et les Catalans. Comment vas-tu, mon cher Victor?
Bah écoute, ça va très bien, très content là. On est sur la reprise du football espagnol ce week-end après un week-end de pause en raison de la victoire de l'Athletic Club en finale de Coupe du Roi face à Mallorca. Donc on a hâte de reprendre. Il y a des gros enjeux ce week-end avec de belles rencontres et on va pouvoir se focus sur l'une d'entre elles. Tu l'as dit, Atlético Girona, la lutte pour la troisième place, la lutte pour les qualifications européennes. Et on a plein de belles choses à dire, notamment sur cette équipe de Girona.
Et petit instant promo, tu as parlé de la victoire de l'Athletic Club en Coupe du Roi. On en a parlé lors du dernier épisode du décrassage avec notamment Ruben en invité. Donc je vous invite à aller checker l'épisode pour avoir notre ressenti sur cette victoire du club basque en Coupe d'Espagne. On reste bien sûr sur ce match entre deux très bien classés, puisqu'on parle tout simplement du troisième et du quatrième. Le quatrième, l'Atlético de Madrid, reçoit le troisième, Girona. Deux équipes qui restent sur deux victoires, hein. C'était il y a deux semaines en championnat. L'Atlético l'avait emporté 2-1, difficilement hein, face à Villarreal. Et grosse perf hein, de Girona qui l'a emporté 3-2 face au Betis Séville. On va faire un léger focus quand même pour commencer, Victor, sur les Catalans. Alors, il y a eu un coup de moins bien sur les dernières semaines, mais on devrait penser en fait que sauf cataclysme côté Girona, l'équipe entraînée par Michel devrait être européenne l'année prochaine. Est-ce qu'on peut considérer que c'est un véritable exploit pour le coup?
Bah d'ailleurs, il y a même un scénario dans lequel, normalement, dès cette rencontre face à Atlético, Girona valide au minimum une participation en Europa Conference League, vu que l'Athletic Club a remporté la Coupe du Roi, donc qui attribue une place qualificative en Europa League. Ça veut dire que le 7e désormais de Liga est éligible à une place en Europa Conference League et le 6e une place directement qualificative en Europa League. Donc normalement, Girona pourra d'ores et déjà être européen. Bien sûr que c'est un immense exploit pour le club, à nuancer au vu justement de leur présence dans le City Group. Mais pour rappel, hein, Girona a accédé à la première division pour la première fois de son histoire en 2017, est redescendu tout de suite après, a échoué deux fois de suite en barrage pour monter et finalement réussi à remonter. Et l'année dernière, finit 10e, excellent exercice en première division espagnole. Et cette année, ils jouent carrément le podium. Ils ont 7 points d'avance sur l'Atlético. Donc ils sont troisième, ils sont même à la lutte avec le FC Barcelone pour cette place de dauphin. On peut le dire, ils ont un peu lâché voilà durant le mois de février, mars, ça a été un peu plus compliqué. Ils ont lâché des points sur le Real, donc dans cette fameuse un peu course au titre dans laquelle on en discutait un peu. On savait peut-être que pour Girona ça allait être un peu dur de suivre le rythme du Real Madrid, c'est le cas. Mais en tout cas ils sont toujours dans le coup pour s'assurer une place qualificative européenne dès ce week-end, donc dans la plus petite des compétitions, l'Europa Conference League. Très rapidement, ça sera en Europa League, et puis on l'espère pour eux à la fin de saison, une place en Ligue des Champions, ce qui serait exceptionnel pour ce club, comme on l'a dit, au parcours de petits poussés en quelque sorte. Et puis voilà, c'est un vent de fraîcheur dans les idées de jeu. On sait que, et je le sais, voilà, notamment dans l'équipe de temps additionnel, avec mon ami Florent, qui a des gros problèmes sur la multipropriété, et moi aussi. Donc c'est vrai que ce club qui appartient au City Group, aidé par le City Group avec des joueurs comme Yann Couto, Savio, qui appartiennent à Troyes, à Manchester City, bien sûr que ce club-là est aidé, bien sûr qu'il cède d'une grande marge financière, qui sont voilà, et en plus ils ont l'aide de tous les systèmes de Guardiola, systèmes d'entraînement, etc. Et Michel est un excellent entraîneur en plus de ça. Mais c'est un vent de fraîcheur dans les idées de jeu, justement, de Michel. Moi, je voulais mettre l'accent sur ça, ne pas simplement s'arrêter au fait qu'il y a une multipropriété, que ça appartient au City Group, qu'ils sont aidés de ci, de ça ou autre. Il y a une vraie équipe avec de vraies idées, grâce notamment à leur entraîneur Michel. Je vous invite à vous renseigner sur les tactiques employées, mais il y a du Guardiola certes, mais il y a aussi une notion de dribble, je l'ai dit plusieurs fois, mais c'est une des équipes qui gagne le plus d'espace en dribblant. Il y a cette notion de d'accumulation, de surnombre en permanence dans les zones dangereuses. Là où il y a un peu de Guardiola, c'est dans l'utilisation des demi-espaces. Ils adorent utiliser les espaces entre latéraux et les centraux des équipes adverses. Ils aiment prendre leur temps dans la préparation, élargir l'équipe adverse. Voilà. Il y a cet espace, cette notion d'espace, cette notion d'occupation, de surnombre, d'aide permanente des 6, des 8 de cette équipe de Girona. C'est tout simplement passionnant de les suivre. On en a fait l'éloge déjà plusieurs fois dans ce podcast. On aura l'occasion de voir ce que ça donne contre l'Atlético et qui d'ailleurs nous avait offert un match exceptionnel à l'aller.
C'était en début d'année, oui, 3 janvier, 4-3.
Donc, on va pouvoir, je l'espère, de nouveau assister à un spectacle exceptionnel entre deux équipes, non pas aux antipodes en termes d'idées, mais pas loin non plus.
Alors sur le point comptable, Gérone, c'est 21 points d'avance sur le potentiel dernier européen qu'est Valence aujourd'hui, avec cette 7e place et la victoire de Bilbao en Coupe du Roi qui débloque, tu l'as dit tout à l'heure, un slot en plus. Et donc du coup, il y a quand même pas mal d'avance aussi sur la Real Sociedad qui est 6e et pour le moment officiellement le dernier européen, mais voilà, ça semble bien embarqué pour les hommes de Mitchell. Alors tu l'as dit, il y a eu un match aller très spectaculaire lors de la victoire de Gérone, 4-3, c'était le 3 janvier dernier, pour le premier match de l'année en Espagne, enfin du moins pour les deux équipes. C'était pour le compte de la 19e journée, il y a eu des équivalents hein, cette saison en Liga, il y a eu quelques matchs spectaculaires quand même. On pense notamment au Barça-Villarreal, hein, victoire où il y avait eu aussi de très belles choses avec cette victoire 5-3. Du sous-marin jaune, mais il y avait eu des belles choses d'un côté comme de l'autre, et puis bah, on s'attend peut-être à revoir certaines choses aussi de ce côté-là. Alors déjà, moi, ma première question, Victor, est-ce que bah, depuis, oui, forcément, il y a eu du mouvement pour les deux équipes, ça va moins bien en termes de résultats. Gérone, à ce moment-là, était un peu plus proche de la tête du classement, et l'Atlético également. Depuis, il y a eu quand même pas mal de pertes de points. Est-ce que en termes de jeu, en termes de proposition, les deux équipes risquent de nous fournir quelque chose de similaire au match aller.
On l'espère, mais même je pense que oui, dans les idées, dans tous les cas, l'équipe de Mitchell, donc Girona, ne renoncera pas à ses idées, à ses préceptes de jeu. Donc forcément, par exemple, si on peut prendre en perspective la dernière rencontre face au Real Betis, ça a été un match extrêmement engagé, techniquement intéressant, une victoire à l'arraché des hommes de Mitchell dans le temps additionnel face à ce Real Betis qui est plus que moribond, mais on va y revenir dans le temps additionnel. Ou voilà, dans tous les cas, ils renonceront jamais. On sait que l'Atlético, dans cette période de l'année a tendance à plutôt aimer fermer le jeu, hein, lorsque les grandes échéances européennes arrivent, lorsque c'est le run final, Diego Simeone peut se montrer assez frileux, peut-être que ça sera le cas, mais l'avantage de ce qu'on va avoir durant cette rencontre, c'est que les points forts de l'Atlético vont pouvoir appuyer sur les points faibles de Girona, et les points forts de Girona vont appuyer sur les points faibles de l'Atlético, donc à mon avis, ils ne vont pas se neutraliser durant cette rencontre. Alors, si je précise mon propos, quels sont les points faibles de Girona? C'est tout simplement la défense lors de contre-attaques, lors des transitions rapide adverse. Ils jouent avec une ligne défensive très haute, histoire d'avoir un bloc compact médian. L'Atlético adore ça, adore pouvoir exploiter la profondeur et justement les espaces qui peuvent être laissés lorsque Girona met en place son contre-pressing et essaye de récupérer le ballon très rapidement. Si l'Atlético, par séquence, arrive à se montrer assez propre techniquement, assez ingénieux, assez créatif dans ses sorties de balles, ils pourront très rapidement mettre en difficulté cette équipe de Girona. Et d'ailleurs, l'Atlético est l'une des meilleures équipes en Espagne dans ce domaine. C'est là où l'Atlético, point fort, va pouvoir appuyer sur le point faible de Girona. Si on prend dans l'autre sens, les points forts de Girona sont justement les attaques placées, les attaques, on va dire, où ils arrivent à manipuler le bloc adverse, à exploiter, comme je l'ai dit, les demi-espaces entre les latéraux et les centraux, ce qui est le gros point faible de l'Atlético cette année. Les joueurs défensifs de l'Atlético sous-performent en permanence. C'est le gros problème des colchoneros depuis 2, 3, 4 ans même, depuis le dernier titre de Liga. C'est que défensivement, ça tient pas plus la route. Les individualités sont mauvaises. Collectivement, il y a quelque chose qui ne va pas. La saison cette année de l'Atlético, je la trouve extrêmement bizarre parce que ça commençait bien, on l'avait dit. Si l'Atlético commence bien la saison, attention, ça peut être un candidat crédible au titre. L'effectif est profond. Il y a de la qualité sur toutes les lignes. On l'avait souligné aussi. Attention défensivement, est-ce que ça va tenir la baraque? Finalement, pas du tout. Pourtant, ça sort l'Inter. une des meilleures équipes d'Europe en LDC, parce qu'en Ligue des Champions, Simeone a cet aspect mental, a ce surplus d'âme qui arrive à embellir son équipe, mais en Liga, ça perd des points bêtement, défaite à Cadiz, l'Athletic Club, etc., etc., donc c'est totalement décroché. Ils étaient même en dehors des places européennes encore jusqu'à la dernière journée, ce qui n'était jamais arrivé sous l'ère, durant les 7 ou 8 dernières années, à ce moment de la saison, que l'Atletico soit hors des places européennes. C'est vraiment une saison bizarre pour l'Atletico. C'est un gros, gros test pour eux, en vue d'ores et déjà de la grosse échéance européenne qui arrive. Il y a le match aller face à Dortmund cette semaine, mais il y aura le match retour la semaine prochaine. C'est une grosse échéance aussi pour se rapprocher potentiellement du top 3, ou du moins continuer dans cette optique de qualification européenne, continuer à garder un avantage sur l'Athletic Club 5e, 2 points derrière les Colchoneros, donc continuer à mettre la pression sur Girona et continuer à assouvir sa place de qualification européenne. Voilà. C'est une rencontre avec énormément d'enjeux, ou tactiquement qui va être fascinante pour les raisons que j'ai évoquées. Point fort, point faible de chaque équipe, on devrait avoir un match assez divertissant.
Est-ce que le problème en ce moment de l'Atlético Madrid, ce serait justement ce qui a plutôt bien marché sur le début de saison, c'est la panne offensive qu'il y a dans cette équipe depuis quelques matchs au final?
Il y a une panne offensive, c'est vrai. Il y a, on va dire que Simeone en début de saison avait trouvé deux trois subterfuges presque, j'ai envie de dire, pour pallier ce manque de créativité. On a eu un Antoine Griezmann aussi stratosphérique, faut pas l'oublier. Il a baissé un peu de régime. Là où l'Atlético continue à performer offensivement, c'est sur l'apport des remplaçants. Je pense que le gros problème de l'Atlético, c'est qu'il leur manque une ou deux stars offensives, mis à part Griezmann, mais qui est d'ailleurs maintenant vraiment utilisé dans un rôle d'équilibriste, dans un rôle de balance au terrain, apporter l'équilibre entre l'attaque et la défense. Ça manque de talent offensif pur. Memphis Depay a pris le relais depuis quelques matchs, mais boum, je crois qu'il vient de se péter, si je dis pas de bêtises. Pour 3 ou 4 semaines, il ne sera pas donc dans le déplacement à Dortmund, dans la double confrontation face à Dortmund, et il ne sera pas disponible non plus pour ce match ce week-end. Donc, gros bémol. Mais moi, je préfère mettre l'accent vraiment sur ce problème défensif de l'Atlético. Pour une équipe de Diego Simeone, ce n'est pas normal. Ça fait déjà 2 à 3 saisons que ça dure. Il faut renouveler cette défense. Il faut réussir à insuffler quelque chose. Et je pense que si l'Atlético arrive à régler ses problèmes derrière, j'ai ce pressentiment que devant, tout ira mieux aussi.
C'est que la 5e défense du championnat, tu vois, c'est ça aussi.
C'est ça.
On se dit que quand on voit les dernières saisons, du moins l'histoire de Simeone à l'Atlético, on a vu bien mieux en termes de rigueur défensive côté Colchoneros. Est-ce que tu penses qu'à 8 journées de la fin, on peut avoir deux équipes dans un contexte qui peut être assez stressant, dans le sens où Gérone a un peu plus d'avance sur l'Atlético Club et je n'ai pas fait attention au calendrier des Catalans, mais il me semble qu'il est plutôt calme, avec notamment, il y a le Barça à jouer, Villarreal entre deux, mais sinon ça parle de Cadiz, Las Palmas, Alaves, Valence, Grenade, donc ça devrait aller pour Gérone. En revanche, côté Atlético, ça pourrait être un peu plus tendu, ce genre de match, puisque y a une courte avance sur l'Atlético Club, et puis tu joues à peu près les mêmes clubs, il y a du Mallorca, il y a une confrontation directe la semaine prochaine, à la fin du mois, face à Bilbao, tu joues du Retafe, tu joues la Sociedad notamment avant la fin de la saison. Est-ce qu'il y a une certaine pression sur cette confrontation directe pour toi, ou est-ce que c'est un match à jouer comme un autre au final?
Il y a une vraie pression pour l'Atlético. Plus que sur Girona. De toute façon, Michel l'a répété tout au long de la saison. Il ne joue pas dans la même cour que le FC Barcelone, que l'Atlético, que le Real Madrid. Ça serait injuste pour eux que les médias ou les fans ou les traitent de la même sorte que les trois géants espagnols. Je suis entièrement d'accord avec ce discours-là. Et en plus, Girona a 7 points d'avance. Et donc sur l'Atlético et 9 sur l'Athletic Club, ils ont un matelas confortable. Le calendrier, on va dire que de toute façon le calendrier, je trouve, de l'Athletic Club, de l'Atlético et de Girona a une difficulté assez similaire. Il y a des rencontres pièges, il y a des rencontres abordables et il y a des rencontres vraiment importantes et primordiales. cette rencontre pour l'Atlético, pour moi, est primordiale. L'Atlético doit remporter ce match pour pouvoir mettre la pression sur Girona, espérer ensuite des faux pas de Girona et pourquoi pas les rattraper au classement, même si cette troisième place ou cette quatrième place finalement ne change pas grand-chose. Ils doivent surtout sécuriser cette quatrième place avec l'Atlético Club qui, eux, vont être sur une lancée exceptionnelle. Ils ont enfin remporté la Coupe du Roi après deux défaites consécutives en finale. Ils vont avoir cet élan de positivité qui vont les pousser réellement dans cette course à la qualification européenne sur ce dernier mois de compétition. Donc voilà, attention à l'Atletico, cette rencontre, ils reçoivent Girona, ils doivent marquer un grand coup et peut-être lancer cette fameuse dynamique de fin de saison. En tout cas, je pense que la pression est vraiment plus du côté de l'Atletico.
Combien pour ce match entre l'Atletico et Girona, mon cher Victor?
Allez, on va partir avec un 2 partout.
Deux partout, très bien.
On prend le truc. Il y aura des buts, je l'ai dit. Même si l'Atlético a des points faibles, les Girona points forts et vice versa, ils vont appuyer dessus. Donc on va avoir une rencontre, je pense, comme le match aller. Alors peut-être pas au scénario aussi rocambolesque que le match aller. Hein. Je vous rappelle que Girona s'est imposé 4-3 avec un but à la dernière minute, avec mené 2-0, 2-2, enfin quelque chose d'assez lunaire. Je sais pas si ça va pouvoir se répéter, mais en tout cas, ce sont deux équipes qui, lorsqu'ils s'affrontent, je pense, vont vraiment nous donner du spectacle. Je vois des buts, je vois pas l'Atlético perdre. Est-ce qu'ils ont la capacité de s'imposer? Attention.
Eh ben écoute, moi je vais dessus sur le match nul, mais ça sera un partout. Voilà, un peu moins spectaculaire, je pense.
Très bien.
Écoute, avant de se quitter, comme la tradition l'oblige dans cette preview Liga, un édito sur un sujet autre que le match du jour. On va parler un petit peu du Betis Séville, rapidement, puisque le Betis Séville fait partie, au même titre peut-être que l'Atlético Madrid en termes de jeu, mais ça c'est plus en termes de résultats pour le Betis Séville, des déceptions de cette saison en Liga, actuel 8e du championnat, et reste sur 4 défaites d'affilée en championnat. C'est les hommes de Manuel Pellegrini. On peine à confirmer les bons espoirs qui ont été placés en eux.
Bah oui, parce qu'on en a parlé plusieurs fois dans ce podcast, dans la preview même Liga de l'été dernier. On attendait que le Real Betis passe un cap cette année. Il y avait une continuité, on va dire, dans l'effectif. Il y a eu pas beaucoup de recrutement, mais voilà, il y a l'arrivée d'Isco pour pallier la blessure de Nabil Fekir. Isco, qui est le seul rayon de soleil dans cette saison du Real Betis. Mais alors, quel rayon de soleil, quel régal de voir ce joueur à ce niveau-là de nouveau. Mais ce rayon de soleil fait de l'ombre à l'ancien meneur, l'ancien chef d'orchestre de cette équipe, Nabil Fekir, et je vais y revenir un peu plus tard dans cet édito. Pour commencer cet édito, voilà, on parle beaucoup de déceptions cette année en Liga, et c'est vrai qu'il y en a, comme Séville, qui encore une fois est obligé de jouer le maintien, alors qu'on pouvait imaginer aller les voir un peu plus haut. Le Celta Vigo de Rafael Benitez, ça n'a pas du tout pris. Ils sont à la lutte pour le maintien, 17e, à 3 points des places relégables, et Benitez a été limogé. Villarreal est aussi une immense déception cette année, mais l'Atlético ou autre, mais ou même le Barça de Xavi est une déception entre guillemets, mais moi ma vraie déception cette année c'est le Real Betis. On attendait qu'il passe un cap, ce n'est pas le cas dans le résultat, ce n'est pas le cas dans le jeu, ce n'est pas le cas dans la mentalité, voilà, il y a quelque chose qui ne passe pas. La saison est pas bonne, ils sont sur 4 défaites de suite, mentalement c'est friable. Le retour tant espéré de Nabil Fekir, voilà, on s'est dit est-ce qu'il va pouvoir aider cette équipe, coopérer avec Isco en tant que double meneur de jeu. Finalement, c'est même Pellegrini avait donné le discours en conférence de presse, les bons s'entendent toujours. Malheureusement, Nabil Fekir depuis qu'il est revenu, il n'est pas bon. Il est sur quasiment 1000 minutes jouées, 17 matchs, il est juste sur 2 passes décisives, 1 but. Il n'arrive pas à jouer parce que Isco, ils ont les mêmes zones d'influence, la même créativité, la même envie d'eux. Donc malheureusement, les deux s'auto-sacrifient parce qu'on a un Isco qui est obligé de retourner derrière, chercher des ballons plus bas, il commet plus de fautes, il est essoufflé beaucoup plus vite, il est moins impliqué dans les scénarios offensifs. Là où Nabil Fekir, lui, essaie de se mettre dans les meilleures dispositions, mais manque cruellement des réussites, alors que le génie espagnol cette année éclaire notre lanterne en permanence lors des matchs de Liga du Real Betis. Mais voilà, le Real Betis souffre aussi de grosses lacunes défensives. Ils ont inscrit seulement 36 buts cette année. Mmh. Ils en ont encaissé également 36. C'est déplorable. C'est déplorable sur tant d'aspects qu'il va falloir y avoir de gros changements cet été chez les Verdi Blancos. Parce que, voilà, c'est pas possible de passer d'une équipe où on attend que que tu surmontes, que tu casses ton plafond de verre, et finalement cette année, bah, on retombe sur terre, on tombe de 2-3 étages, et le projet ralentit. Il y a des grosses données économiques également à prendre en compte. Le Real Betis actuellement est 8e, donc est hors des qualifications européennes à 42 points, 2 points derrière Valence 7e, qui on l'a dit occupe cette fameuse place qualification pour l'Europa Conference League. Attention, parce que cet aspect économique va être vraiment très important en vue de ce qui va se passer cet été. S'ils font 8e hors des qualifications européennes, ils vont être en perte jusqu'à plus de 15 millions, donc ça veut dire qu'ils vont devoir vendre. S'ils se qualifient uniquement pour l'Europa Conference League, il y a un différentiel de 7 millions. Et s'ils se qualifient pour l'Europa League, le PDG, le directeur sportif du Real Betis, dont j'ai oublié le nom, excusez-moi, a dit qu'il serait à peu près à l'équilibre. Donc il y a vraiment une poursuite de cette qualification à l'Europa League. Ils sont à 7 points derrière la Real Sociedad qui est à 49 points. Ça risque d'être très très compliqué s'ils continuent en plus d'enchaîner les défaites. Va falloir se réveiller, et en plus, pour conclure ça et assommer nos derniers fans, nos derniers auditeurs du Real Betis de ce podcast, je vous invite à regarder le calendrier du Real Betis. Oui. Mais donc il y a un match contre Valence qui va être déterminant. Il y a la réception de Séville dans le derby sévillan. Il y a un déplacement à Osasuna. Attention au match piège. La réception d'Almeria, s'il vous plaît, mais Verdi Blancos, ne faites pas les cons. Las Palmas, un déplacement à Las Palmas, pourquoi pas, il faut prendre ce match. La réception de la Real Sociedad, encore un match plus que déterminant dans la course à la qualification européenne. Et pour conclure la saison, quoi de mieux qu'un déplacement au Bernabéu. Il faudra espérer que le Real Madrid soit déjà champion et n'en ait rien à faire de ce match. Mais sinon, ce calendrier s'annonce plus qu'ardu pour les Verdi Blancos.
Et encore, pas impossible qu'il n'en ait rien à faire s'il y a une qualification en finale de Ligue des Champions, admettons, pour le Real Madrid, et qui veulent bien préparer cette rencontre. Par exemple, hein, je nommais aucune piste. Voilà. Bon, bah, en tout cas, ça va être très intéressant de suivre la fin de saison des Verdi Blancos, et de voir ce qui va devenir notamment de Pellegrini en fin de saison, et de voir comment va évoluer cette équipe sur la saison 24-25. Merci Victor de nous avoir préparé ce très bel édito et ce beau podcast pour le match entre l'Atlético et Girona. Vous pourrez nous retrouver dès ce week-end avec les autres previews de ce vendredi soir. On se retrouvera dès lundi pour le décrassage numéro 13. C'était traditionnel. Passez un excellent week-end de football. Ciao tout le monde.